Dieu veut notre bonheur. Et ce bonheur consiste à jouir de lui. Mais pour jouir de Dieu, même en partie ici-bas, il faut se détacher de toute attache déréglée. On ne peut pas à la fois être pleinement uni à Dieu et puis être uni aux créatures d'une façon déréglée. Notre Seigneur nous a dit « Nul ne peut servir de maître ». Donc l'amour de Dieu est un amour béatifiant, c'est un amour qui nous transforme et qui nous élève, mais en même temps c'est aussi un amour crucifiant. Donc c'est là, c'est lié aux exigences de l'amour. Parce qu'un amour vrai est un amour qui réclame l'absolu, qui ne se contente pas de demi-mesure. Et donc Dieu nous aimant d'un amour absolu, désire aussi notre propre amour. Donc lorsque l'amour de Dieu entre dans une âme, il embrase l'âme de ce feu de l'amour divin, mais en même temps aussi il consume, il brûle, il détruit tout ce qui s'oppose à cet amour. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, dans la vie spirituelle, on ne peut pas séparer la vie ascétique de la vie mystique. Nous, on voudrait avoir une vie mystique sans vie ascétique, sans que ça nous coûte quoi que ce soit. Mais cette vie mystique, donc cette vie d'union à Dieu, suppose un décapage. Donc suppose une partie pénible, d'où les sécheresses, d'où le combat spirituel que l'on peut éprouver, qu'on éprouve dans une retraite, que notre Seigneur a éprouvé au désert. C'est à la fin de ces 40 jours au désert qu'il a été tenté par le démon, que les moines éprouvent en quittant le monde. Les gens du monde parfois se disent oh, « ils ont de la chance dans les monastères, c'est tranquille, la vie pépère ». Bon, quand on connaît plus de l'intérieur la vie monastique ou la vie du Carmel, on s'aperçoit que c'est pas si pépère que ça. Et c'est normal, parce que dans la mesure où on se rapproche de Dieu et où on se donne plus profondément à Dieu, eh bien Dieu attend plus de nous, et donc il y a une partie de combat qui apparaît. Donc pour entendre la voix de Dieu, il faut cette disponibilité, cette ouverture d'âme. Et c'est en fonction de cette ouverture que Dieu vous parlera. Donc là, c'est là la partie de l'homme, vous voyez. Dieu a beaucoup de choses à nous dire, a beaucoup de choses certainement à nous apprendre, mais la grâce de Dieu dans notre âme dépend de notre réceptivité. Donc si on entrouve notre âme, eh bien la grâce pénétrera un petit peu. Si l'âme est grand ouverte, elle pénétrera beaucoup plus. Et on voit par exemple dans l'Ancien Testament que c'était l'attitude de Samuel qui au milieu de la nuit entendait une voix, qui croyait que c'était le prêtre Élie qui venait, qui l'avait appelé, et finalement c'était la voix de Dieu. Et Élie lui dit, eh bien la prochaine fois quand tu entendras la voix, tu diras, parlez Seigneur, votre serviteur écoute. Eh bien c'est un peu ce qu'il faut se dire dans une retraite, parlez Seigneur, votre serviteur écoute. Donc bien sûr on parlera aussi au bon Dieu, mais il y a un dialogue donc, qui s'opère, mais laissons la parole aussi au bon Dieu. Donc n'oublions pas de l'écouter et d'avoir cette qualité d'écoute pour pouvoir l'entendre. Alors il s'agit d'entendre la voix de Dieu, donc éviter d'avoir une oreille sélective. Alors entendre la voix de Dieu, ça ne veut pas dire sentir Dieu. Là, c'est une autre erreur qui est malheureusement classique, parce qu'on est des hommes et non des anges. Donc, nous avons des sentiments. Donc, on voudrait sentir Dieu. Donc, il faut éviter que notre vie spirituelle repose sur des sensations, sur des sentiments, sur des impressions, parce que nos sentiments changent, nos sensations évoluent, nos impressions aussi se modifient, et notre vie spirituelle, elle, doit être stable. Donc il faut que la vie spirituelle s'appuie sur les vérités révélées par Dieu. Donc ici, on va vous montrer, vous rappeler finalement, les vérités que vous connaissez déjà, donc il ne s'agit pas d'apprendre trop des vérités nouvelles, mais de faire en sorte que ces vérités pénètrent un peu plus profondément dans votre âme, pour vous aider à avoir une piété objective. Donc il y a un danger dans la vie spirituelle, c'est de confondre les consolations que Dieu nous donne, et dont on a besoin parce qu'on est des hommes, et Dieu sait qu'on en a besoin, donc il nous les donne de temps en temps, mais de confondre ces consolations avec Dieu. Donc le jour où on n'a plus de consolation, on a l'impression que Dieu est parti. Mais non, le bon Dieu reste près de nous, même dans les épreuves. C'est le moment où il paraît le plus loin qu'il est le plus proche. Ces grâces, que, même sensibles, que le bon Dieu peut nous donner, mais n'y soyons pas trop attachés. Parce que ce serait une erreur de confondre Dieu avec ces grâces qu'il veut nous donner. Et il y a un danger en ce moment-là, alors, de gourmandise spirituelle. Et les auteurs spirituels le disent, que les sept péchés capitaux se retrouvent sur le plan spirituel. Les sept péchés capitaux qu'on voit dans le domaine sensible se retrouvent dans le domaine spirituel. Donc il y a une gourmandise spirituelle. Lorsque cette gourmandise spirituelle n'est pas satisfaite, eh bien il y a une paresse spirituelle, bon, puisque c'est comme ça que je boude le bon Dieu, j'arrête de prier. Ou au contraire, ensuite, un orgueil spirituel, parce que je me crois le meilleur, parce que j'ai eu une petite consolation sensible au moment de la consécration. Eh bien non, on n'est pas meilleur parce que le bon Dieu nous donne un petit peu de sucre. C'est parce qu'on est faible qu'on a besoin de sucre et que le bon Dieu a pitié de nous. Donc, au cours de la retraite, c'est tout à fait normal qu'il y ait des périodes où vous soyez, où vous vous sentiez plus proche de Dieu, et sachez le remercier. Mais ce n'est pas parce que l'instant d'après, vous ne le sentez plus, que le bon Dieu est disparu. Donc, et dans ce cas-là, il faut multiplier les actes de foi, d'espérance et de charité. La vie spirituelle repose sur ces vertus théologales. Et puis ensuite, entendre la voix de Dieu, ça ne signifie pas non plus comprendre Dieu. Donc on dit que il ne s'agit pas de sentir, on dit, bah, s'il n'y a pas de sentir, il s'agit de comprendre, je vais quand même essayer de comprendre quelque chose. Eh bien non, il ne s'agit pas non plus de comprendre Dieu. Dieu est infiniment au-dessus de nous, donc on ne peut pas le comprendre. Si on comprenait Dieu, on serait Dieu, ou alors Dieu ne serait plus Dieu. Donc il ne s'agit pas là non plus, au cours d'une retraite, ce serait une autre erreur, donc de satisfaire une curiosité intellectuelle ou spirituelle, ou aussi de nourrir son orgueil, mais il s'agit plus d'apprendre à aimer. C'est essentiellement, on peut dire que c'est cela une retraite. C'est d'apprendre à aimer le bon Dieu. Apprendre à aimer le bon Dieu en voyant ce qu'il a fait pour nous, et donc en le contemplant. Plus on s'approchera de Dieu en voyant qui il est en lui-même et ce qu'il a fait pour nous, plus on l'aimera. Et c'est là le but d'une retraite. Donc vous voyez que les instructions sont importantes au cours d'une retraite. Donc il s'agit aussi, c'est vrai, d'approfondir certaines lacunes que vous pourriez avoir sur le plan de la foi, sur le plan du catéchisme. Mais il ne faudrait pas réduire une retraite à une session d'études. Une retraite, ce n'est pas une session d'études intellectuelles. Donc il faut essayer de suivre les instructions en essayant de voir comment elles peuvent nous aider à approcher Dieu et nous aider à l'aimer un peu plus. Donc entendre la voix de Dieu, ça ne signifie pas sentir Dieu, ça ne signifie pas comprendre Dieu, et ça signifie essentiellement, donc je le rappelais il y a un instant, porter sur Dieu des regards de foi, d'espérance et de charité. C'est cela, c'est ça une retraite. Au cours d'une retraite, on met en exercice les vertus théologales. Essentiellement, c'est parce que ce sont ces vertus qui nous rapprochent de Dieu. La foi nous fait connaître Dieu tel qu'il est, l'espérance nous fait désirer Dieu, et la charité nous fait aimer Dieu. Et c'est pour cela que vous êtes ici. Notre Seigneur disait à la Samaritaine, « L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Donc en esprit, donc avec son esprit, avec son cœur aussi on pourrait dire, et puis ensuite en vérité, c'est-à-dire en s'appuyant sur la vérité objective révélée, et non pas sur les impressions. Alors les obstacles à ce repos en Dieu, on pourrait dire que, bon, c'est les obstacles classiques que vous connaissez, je vous rappelle, c'est d'abord le combat spirituel qui s'exerce au cours d'une retraite, je le mentionnais tout à l'heure. Donc les trois obstacles, c'est le démon d'abord, qui n'aime pas voir partir en retraite. C'est pour ça que souvent, juste avant de partir en retraite, comme par hasard, il y a une montagne d'obstacles qui se dresse. On avait déjà depuis plusieurs mois désiré faire la retraite, puis tout d'un coup, paf, on se demande si c'est possible. Vu le nombre de personnes qui se désistent à l'éveil de retraite, c'est classique. Donc on voit bien qu'il y en a un qui... Bon, après, il peut y avoir des raisons, bien sûr, autres, mais... Ça peut jouer. Donc le démon, soit avant la retraite ou pendant la retraite aussi. Donc sachez, donc, je vous préviens tout de suite, surtout pour les bonnes fidèles que vous êtes la plupart d'entre vous, que je vous connais. Donc chaque fois que vous êtes troublé par une phrase qui commence par « qui c'est si, peut-être que, si jamais », ça ne vient pas de Dieu, ça, vous voyez. Donc le bon Dieu, quand c'est notre ange qui nous éclaire, il nous dit toujours « tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu aurais dû faire ceci, tu n'aurais dû faire cela, ou tu vois bien que les choses sont comme ceci, c'est clair, c'est net, c'est pas ambigu. » Mais toutes les questions qui vous troublent, qui vous insinuent le doute en vous, alors après on ne sait pas plus après qu'avant, on sait encore moins après qu'avant, ça c'est pas de Dieu. Donc en ce moment-là on coupe, on ne discute pas avec le diable. Ah oui, mais c'est si, peut-être, ah, maintenant, on ne l'écoute pas. Ensuite, il y a le vieil homme qui est en nous. Donc face aux exigences de l'amour, eh bien il y a un combat qui s'opère aussi. Parce que Dieu veut notre cœur, il veut tout. Et quel que soit notre état de vie, le bon Dieu veut tout, parce qu'on est une créature de Dieu, et parce qu'on a été racheté par lui. Et donc, face aux exigences de l'amour, il y a aussi un combat qui s'opère. Donc c'est ce qui explique que le repos est un repos relatif. Parce que ce repos dépend, en ce moment-là, de notre générosité. Si on ne veut pas, si on ne veut qu'à moitié, on sent bien qu'il y a un combat qui s'opère entre le vieil homme et l'homme nouveau. Et puis ensuite, troisième obstacle, c'est le monde, c'est les soucis. Est-ce que j'ai bien donné tous les consignes à mon mari avant de partir? Est-ce qu'il a bien compris? Est-ce qu'ils sauront se débrouiller? Bon, on verra bien. Vous le saurez assez tôt. Donc maintenant, c'est trop tard. Priez pour eux et puis priez pour que ça se passe bien. Donc le remède, vive l'instant présent, vous voyez. Donc ne pensez pas à l'après-retraite, pensez pas à ce qui s'est passé avant. Maintenant, vous êtes en retraite, 5 jours dans le silence, près du bon Dieu. C'est magnifique. Et puis enfin, dernier obstacle au repos, donc après le combat spirituel, autre obstacle, c'est la transcendance de Dieu. Dieu, par un certain côté, est proche de nous, et par un autre côté, il paraît loin de nous, parce qu'il est Dieu. Donc Dieu est bien au-dessus des créatures. Et donc, c'est un petit peu comme quand on regarde une montagne qui est très haute, ça peut nous donner le vertige. Là, c'est un petit peu cela. Ce contact personnel avec Dieu, le fait d'approcher le mystère de Dieu, nous déroute parfois un petit peu. Et donc on retrouve ici ce que je vous disais sur le fait que tous les grands auteurs mystiques eux-mêmes, les ermites, les saints, reconnaissent que ce contact avec Dieu est un petit peu en partie éprouvant, et cela dépend de la transcendance de Dieu. Alors après avoir vu les obstacles, les dispositions maintenant alors pour entendre la voix de Dieu, donc on sait ce que c'est qu'entendre la voix de Dieu, il s'agit de mettre en action les vertus théologales, on a vu les obstacles, voyons les dispositions. La première disposition, c'est évident, c'est le silence. Dieu parle dans le silence. Donc je vous rappelle ici l'introït du dimanche dans l'octave de Noël. Alors qu'un profond silence enveloppait toute chose et que la nuit était au milieu de son cours, votre parole toute puissante est venue du ciel. Eh bien, ce passage, bien sûr, qui est tiré du livre de la Sagesse, est mis à Noël parce que la parole, en l'occurrence, c'est le Verbe de Dieu, c'est notre Seigneur, qui est arrivé au plus profond de la nuit à Noël à Bethléem. Mais cette parole s'applique aussi, je pense, à une retraite. Alors qu'un profond silence enveloppait toute chose, donc plus vous aurez ce silence extérieur et intérieur, eh bien votre parole toute puissante est venue du ciel, la parole de Dieu qui désire vous toucher viendra dans votre âme. Donc silence extérieur, silence de la langue, mais aussi silence des yeux, on peut dire beaucoup de choses avec les yeux, et puis silence intérieur, donc en particulier éviter la préoccupation de soi-même. Donc prenez pas votre température 36 fois par jour pour savoir où vous en êtes, c'est pas le but. Et puis ne pas vous étonner non plus de ne pas y arriver tout de suite. Certains d'entre vous, bon, en fonction de ce que vous faisiez les jours passés, ça ira assez vite. Il y en a d'autres, arrivé mardi, ils se rendront compte qu'elles sont encore dans le monde. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas un TGV qui roule à 270 à l'heure en quelques secondes, il faut un certain temps. Donc ne pas vous étonner qu'il y ait encore tout le bruit du monde qui envahisse notre cœur durant le début de la retraite. Laissez-vous faire. Donc le silence comme première disposition, ensuite l'humilité, donc savoir s'accepter tel que l'on est, pour que Dieu puisse venir dans une âme. Je vous loue, ô Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux prudents, tandis que vous les avez révélées aux petits. Oui, Père, car tel est votre bon plaisir. Et puis ensuite, troisième qualité, ce serait les grands désirs. Donc c'est le désir qui ouvre notre âme. Je disais tout à l'heure que le bon Dieu vient dans une âme en fonction que cette âme est ouverte ou fermée, ou entr'ouverte. Alors qu'est-ce qui ouvre l'âme? C'est le désir. Plus notre désir sera grand, plus le bon Dieu pourra venir en nous. On voit dans l'Ancien Testament, Dieu qui dit à Daniel, enfin c'est l'archange Gabriel au nom de Dieu qui parle, « Je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence car tu es un homme de désir. » Donc Dieu aime les âmes de désir. Mais là, certaines personnes se trompent quant à la nature du désir. Elles pensent que le désir c'est une tension nerveuse, une crispation. C'est pas du tout ça, il ne s'agit pas de se crisper, il ne s'agit pas de se tendre. Le désir consiste à reconnaître notre indigence, donc reconnaître qu'on n'est pas parfait, et se tourner vers celui qui peut combler nos lacunes. Et cette disposition d'âme suppose, vous voyez, les deux aspects qu'on voit dans l'action du Saint-Esprit dans une âme, la douceur et la force. Nous, quand on est doux, on est souvent faible ou mou, et quand on est fort, on devient violent. Alors il faut essayer d'avoir la douceur et la force. Cette douceur qui fait qu'on pacifie notre âme pour laisser Dieu agir, et la force qui fait qu'on ne renonce pas face aux difficultés qu'on rencontre. Et on voit bien toujours que l'obstacle au désir, il y a toujours deux obstacles, toujours les fameux deux écueils de la vie spirituelle. Le premier, c'est l'orgueil, donc se croire parfait, donc on ne voit pas ce qu'il y a à désirer. Moi, ça va. Bon, moi, si ça, ça va, moi, ça va. Et puis, le deuxième, c'est le découragement, qui fait qu'on croit qu'on n'y arrivera jamais, n'importe comment, c'est pas la peine, on a depuis le temps qu'on essaie, c'est pas fait pour moi, moi, je suis pas un mystique, je préfère retourner à mes fourneaux. Bon, patience, patience. Donc, ne pas se décourager. Et la qualité, je crois, qu'il faut développer pour être une âme de désir, c'est de conserver le regard neuf sur les choses de Dieu. Vous savez, le prêtre, quand il monte à l'autel, chaque jour, il dit, quel que soit son âge, il dit qu'il monte à l'autel qui réjouit sa jeunesse. Vous avez le prêtre de 85 ans qui dit ça. Eh bien oui, l'autel de Dieu réjouit notre jeunesse parce que chaque messe est différente. Il faut garder ce regard neuf. Et qu'est-ce que vous diriez, vous, d'un prêtre qui, au bout de 30 ans, de dire, ouais, moi, la messe, je connais, ça fait 30 ans que je dis la messe tous les jours. Vous direz, bon, ben, c'est ça, le prêtre. Eh bien, ce qui est vrai du prêtre, vous voyez, est vrai aussi, de l'état de vie que vous avez embrassé. Il faut essayer d'avoir ce qu'on apprécie dans la jeunesse, c'est cette générosité, cet enthousiasme, cette fraîcheur d'âme. Et il faut essayer de la conserver ou de la retrouver. Et c'est aussi le but d'une retraite. Donc, essayer de ranimer en nous la grâce initiale que Dieu nous a donnée lorsqu'on s'est engagé en particulier dans un état de vie. Et Dieu, désire cela de nous. Donc, il ne s'agit pas de vouloir, de rêver de rentrer au monastère ou de je ne sais pas quoi, pour les gens mariés en particulier. Ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Mais que vous ranimiez la flamme première que vous avez eue le jour où vous êtes engagé devant Dieu. Et puis ensuite, quatrième disposition, alors, pour laisser entendre la voix de Dieu, c'est la patience. Il faut être patient. Donc, imiter un peu la cananéenne, vous voyez, qui implorait le secours de notre Seigneur sans relâche. Il y avait les apôtres qui étaient là, qui étaient agacés par cette femme qui n'arrêtait pas de crier, donc... qui demandait à notre Seigneur de faire quelque chose pour qu'elle arrête. Mais elle a insisté, et elle a eu gain de cause. Donc il faut savoir insister, malgré le refus apparent de Dieu. Les chiens prennent bien les miettes qui tombent de la table de leur maître, dit-elle. Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta parole. Et je crois que ce serait un petit peu une image aussi, surtout dans les périodes qui pourraient être un peu plus difficiles, plus longues pour vous au cours de la retraite, ce serait d'imiter un peu le chien, enfin pour celles qui aiment le chien, parce qu'il y en a qui peut-être qui détestent les chiens parmi vous, donc je ne parle pas à celle-là, je parle aux autres. Donc l'attitude du chien qui attend le retour de son maître. Vous voyez, le chien, il n'est pas crispé, il n'est pas tendu, mais non, il est, au contraire, il est aux aguets. Et dès qu'il voit son maître, il bondit de joie. Donc c'est... Il y a un vieux prêtre qui était, alors c'est peut-être une autre image qui vous touchera davantage, un séminariste qui vient voir un prêtre, qui vient voir donc un prêtre au séminaire, à Écône, un vieux prêtre, et puis qui dit, ah, mon père, donnez-moi un conseil, parce que chaque fois que je veux me mettre en prière, j'arrive pas à me concentrer. Alors ce prêtre qui lui dit, imbécile, quand tu vas voir ta mère, est-ce que tu cherches à te concentrer? Donc vous voyez, par exemple, le tableau qui est là, on l'a acquis la semaine dernière, c'est pour ça que je vous l'ai mis là. Quand on regarde un tableau comme ça, eh bien, il n'y a pas besoin de se concentrer pour admirer le tableau. Enfin, moi, je n'en ai pas besoin, moi. Ou peut-être. Donc il faut laisser l'image s'imprimer en nous. Et on voit bien que c'est plus une détente, plus un repos, qu'un travail de crispation, de tension. C'est pas parce que vous tendez que vous arriverez à mieux goûter ce tableau qui est là devant vous. Et les effets ensuite qu'on est en droit d'attendre alors de ce contact avec Dieu, eh bien plus on vit près de Dieu, plus notre âme retrouve la paix, la sérénité et l'abandon à la providence. Bon, on prend conscience aussi, c'est vrai, du décalage qu'il y a entre ce que Dieu attend de nous et ce que nous faisons malheureusement trop souvent. Donc on regrette certaines choses et donc on essaie de prendre des résolutions pour progresser. Mais chaque chose en son temps. Donc pensez pas aux résolutions aujourd'hui, c'est pas le moment. Et puis dernier conseil, bien sûr, comme toujours, faites la retraite avec la Sainte Vierge. Elle est notre mère, donc faites-lui confiance et elle vous conduira paisiblement à son divin Fils. Donc voilà pour ce soir. On a du mal à se mettre dans l'esprit de la retraite. Qu'elle ne s'inquiète pas. J'en parlais hier, certaines personnes, il leur faut 48 heures pour arriver à se mettre dans l'esprit de la retraite. Et puis la journée qui suit, eh bien, tout se passe bien. Et les deux jours qui suivent, on pense au départ. Mais donc il faut essayer de se mettre dans cet esprit, donc essayer de se laisser porter par les instructions, qui normalement il y a un équilibre qui a été prévu. Donc il suffit de se laisser, de suivre ces instructions sans vous inquiéter. Mais c'est vrai, comme je disais hier, qu'on n'arrête pas un TGV en quelques secondes. Et puis en plus, en fonction des natures, certaines personnes qui sont assez actives, elles se noient justement dans ces activités, ce qui les empêche de penser. Et lorsque précisément ces activités cessent, alors il y a l'esprit qui commence à bouillonner et du coup, on ne sait plus trop où on en est. Donc il faut essayer de s'apaiser petit à petit. Et je pense que c'est ce que Dieu veut. Mais donc, n'en soyez pas trop surpris. Et puis, donc ne vous inquiétez pas. Et surtout, ne vous inquiétez pas de vous inquiéter. Sinon, après, ça devient inquiétant pour le coup. Alors, nous allons parler du péché originel et de ses conséquences. Donc, le but de cette instruction, ce n'est pas tant de connaître nos péchés personnels, que de connaître l'état de l'homme après le péché originel, dans la partie négative de l'âme. Monseigneur le rappelait à midi, que nous sommes transformés en Dieu par le baptême, nous sommes rendus participants de la nature de Dieu, donc c'est l'aspect de l'homme nouveau, avec la grâce et les vertus, cela nous allons en parler. Ce n'est pas l'objet de cette instruction. Ici, il s'agit de voir un aspect, à savoir le vieil homme qui est en nous. Donc, il y a toute notre vie, la cohabitation de deux hommes. Un qui désire le bien, et l'autre qui a tendance à se laisser aller à ses mauvaises tendances. Et qui que nous soyons, eh bien, nous retrouvons en nous ces deux aspects. Alors, les saints, bien sûr, ce sont ceux qui arrivent à maîtriser le plus le vieil homme, mais... n'existe pas de produit d'anesthésiant pour le faire disparaître totalement ici-bas. Donc c'est très important d'avoir cette lucidité pour arriver à bien se connaître. Souvent, on se connaît mal. Et donc, le but de cette instruction, c'est de se dire, voilà ce qu'est un homme depuis le péché. Alors, je vais faire un survol très rapide. Je ne sais pas si on vous en a parlé ce matin, donc c'est pour ça que je peux faire un survol rapide. Pour comprendre la déchéance de l'homme, donc survol rapide de ce qu'était l'homme avant le péché. Donc pour comprendre l'état de l'homme aujourd'hui, il faut savoir d'où il est tombé. Et pour cela, de connaître l'état dans lequel se trouvait l'homme avant le péché. Donc Adam et Ève étaient unis à Dieu par la grâce. Donc ils étaient remplis de la connaissance et de l'amour de Dieu. Ils ne voyaient pas Dieu face à face. Ils n'avaient pas la vision béatifique, sinon ils n'auraient pas pu pécher. Celui qui voit Dieu ne peut plus pécher. Quand on verra Dieu, on sera émerveillé par lui, on sera rempli de lui, et on ne pourra plus s'écarter de lui. Mais tant qu'on ne le voit pas, on peut hélas s'écarter de lui, ce qui explique la possibilité du péché originel. Donc ils avaient la grâce sanctifiante, comme les justes ici-bas ont la grâce sanctifiante, et ils étaient enrichis de dons qu'on appelait les dons préternaturels. Donc préternaturel, ça signifie au-delà des lois de la nature. Surnaturel, c'est ce qui est au-dessus de la nature. Préter, c'est ce qui est au-delà. Donc ces dons préternaturels, ce sont des dons qui corrigent les défauts inhérents à notre nature. Naturellement, un homme est mortel. Il est mortel parce qu'il a un corps qui est composé, et par nature, un corps composé est appelé un jour à se décomposer. Donc le fait pour un corps d'être immortel, c'est au-delà des lois de la nature. Ensuite, ils avaient le don d'impassibilité, donc ce qui fait qu'ils ne souffraient pas. Le don d'intégrité, don important qu'il importe de connaître pour comprendre aussi notre déchéance. Ce don d'intégrité, c'était une soumission parfaite des passions à la raison et de la raison à Dieu. Donc il ne pouvait pas y avoir chez eux de révolte des passions contre la raison. Nous-mêmes, nos passions souvent nous font grossir les choses, comme disait Monseigneur encore à midi. Et là, ce n'était pas possible. Les passions existaient bien en eux. Pascal disait « Rien de grand ne se fait sans passion ». Donc la passion nous est nécessaire pour pouvoir affronter les obstacles, pour pouvoir bien accomplir notre devoir. Plus on est passionné par ce que l'on fait, plus on aura des chances de bien le faire. Mais les passions sont telles que souvent, elles obscurcissent notre raison. Donc notre intelligence est court-circuitée par ces passions qui prennent une trop grande importance. Et bien cela n'était pas le cas chez Adam et Ève. Il y avait cette soumission parfaite, si bien que c'était toujours l'intelligence qui était maître. C'était l'intelligence, c'était la raison qui était le radar, la raison éclairée par la foi, qui était le radar qui permettait à nos premiers parents de s'avancer vers Dieu. Alors, quelle a été la nature du péché originel après avoir vu ce qu'étaient Adam et Ève au paradis ? C'est aussi intéressant à connaître cette nature du péché originel parce que ça nous aide à comprendre des déficiences qui sont aussi en nous aujourd'hui. Donc, la nature du péché originel, nous le savons, on l'a appris au catéchisme, on dit que la nature du péché originel, c'est un péché d'orgueil, mais ensuite, il faut encore préciser. Dans la Genèse, au chapitre 3, verset 5, il est dit que Adam et Ève ont eu un désir de similitude avec Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Ce qui signifie, selon les commentateurs, le désir de pouvoir déterminer par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Nous le savons nous-mêmes, c'est la loi objective qui nous indique ça c'est bien, ça c'est mal. Et ce n'est pas l'homme qui décide qu'une chose est bien ou qu'une chose est mal. C'est la nature des choses qui détermine ce qui est bien, ce qui est mal. Et Dieu a déterminé, justement, en créant la nature, ce qui est bien et ce qui est mal. Et l'homme, justement, refusant cette soumission à une autorité supérieure, a voulu, par son intelligence, pouvoir dire ça c'est bien, ça c'est mal. A voulu s'attribuer une qualité qui n'est propre qu'à Dieu. Donc, au secours de Dieu. Selon le plan de Dieu, l'homme doit être transformé en Dieu, mais par Dieu. Et là, le péché originel, c'est de vouloir acquérir la perfection par ses propres forces, sans faire appel à une autorité supérieure. Et là, on voit dans cet orgueil de l'homme qui veut arriver par lui-même, sans recourir à un supérieur, une analogie avec le péché des anges. Dans le péché des anges, c'est ce que nous dit saint Thomas, il y voit deux aspects, donc les anges déchus, ceux qui ont été infidèles à Dieu, il voit à travers eux, à travers leur péché, d'abord une complaisance dans leur état, donc ils se glorifiaient d'être des anges, ce qui peut-être paraissait pas mal, mais en même temps un refus de l'accroissement de la gloire venant de Dieu. Dieu voulait aussi les béatifier, et eux, là encore, refusaient que ce soit Dieu qui leur donne cet accroissement. Donc, dans les deux cas, on voit apparaître ici le péché d'orgueil. Vouloir arriver à Dieu par ses propres forces. Et en plus, alors, à ce péché d'orgueil, s'ajoutait un péché de désobéissance, très important aussi à comprendre, voyez, désobéissance, qui est d'abord désobéissance d'Ève, et puis ensuite d'Adam, et cet ordre aussi est important pour comprendre aujourd'hui les difficultés, d'abord l'ordre de l'obéissance, tel que Dieu le conçoit, la difficulté que la femme peut avoir à obéir. Donc désobéissance au précepte, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Donc Dieu avait parlé clairement, tu n'en mangeras pas. Donc le fait d'en manger, c'était désobéir à un ordre de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 17. Donc dans l'ordre voulu par Dieu, Ève obéissait à Adam, mais sans difficulté. Et aujourd'hui, Dieu demande toujours cette obéissance, mais cette obéissance se fait difficilement, parce qu'il y a un désordre en nous. Les enfants devaient obéir à leurs parents, mais ils auraient obéi à leurs parents sans difficulté. Aujourd'hui, les enfants doivent obéir à leurs parents, mais cette obéissance leur coûte. Les inférieurs dans une entreprise doivent obéir à leur chef. En soi, ils auraient dû obéir à leur chef. Ça se serait fait sans difficulté. Aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas facile toujours d'obéir. Donc la difficulté que nous avons à obéir vient de ce désordre du péché originel qui a été un péché de désobéissance. Donc il y a un désordre qui affecte notre nature, qui fait que l'obéissance nous est pénible. Et il faut le reconnaître. Et puis ensuite, alors, on peut ajouter des péchés annexes, péchés de curiosité chez Ève, en voulant voir ce fruit qui paraissait si agréable, si bon. Donc péché de curiosité. Et puis chez Adam, alors, une faiblesse excessive par rapport à son épouse, il ne voulait quand même pas lui refuser ça, alors qu'il aurait dû avoir le courage de lui dire non. Péché très grave. Très grave tout d'abord en raison de la perfection de leur état. Donc au départ, on a montré les privilèges qu'ils avaient. Ils avaient naturellement, ils étaient déjà. Ils avaient beaucoup de dons naturels, mais on a vu qu'ils avaient des dons en plus surnaturels et préternaturels. Donc en raison de la perfection de leur état, le fait de pécher était plus grave que pour nous-mêmes depuis cette chute. Et puis surtout, Adam a péché en tant que chef de l'humanité. Et ça, c'est très important de comprendre. C'est très important de comprendre qu'Adam, au moment de son péché, représentait tous les hommes. Souvent, dans la conception des gens, ils vous disent « Oui, mais c'est pas juste, c'est lui qui pêche et c'est nous qui payons les pots cassés ». En réalité, c'est une erreur de le concevoir comme cela. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, je pense que c'est chapitre 5, verset 5, il dit que tous ont péché en Adam. Donc tous les hommes étaient représentés en Adam. Donc ce péché d'Adam n'était pas uniquement un péché personnel, donc comme les péchés que nous commettons sont des péchés personnels, mais c'était un péché de nature, donc qui touchait toute la nature humaine. C'était un péché personnel en Adam, mais c'était en même temps un péché de nature, parce que toute la nature humaine était représentée en lui. Et là où on voit que nous avons une vision un peu sélective des choses, c'est que quand on dit que notre Seigneur sur la croix représentait tous les hommes, là ça ne fait aucune difficulté. Il dit, oui, bien sûr, il représentait tous les hommes, pas de problème. Quand on dit qu'Adam représentait tous les hommes avant son péché, attendez, là j'ai plus de mal à comprendre. Donc quand il s'agit du salut, ça va très bien, de la chute, on a plus de mal à voir. Donc c'est très important en tout cas de le comprendre et de l'admettre, puisque c'est une vérité de foi. Et dans le péché, il y a toujours deux aspects. Il y a le péché, il y a l'attirance vers un bien passager et le fait de se détourner du bien immuable. Donc dans le péché, il y a toujours ces deux aspects. Le fait de s'attacher d'une façon déréglée à une créature nous détache du Créateur. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est finalement préférer la créature au Créateur. Les faits du péché originel, eh bien, nous les connaissons malheureusement. Le bon Dieu l'avait déjà annoncé. Le jour où tu mangeras du fruit défendu, donc tu mourras. Donc c'est d'abord la mort à la vie surnaturelle, donc la perte de la grâce sanctifiante. Ensuite, c'est la perte des biens préternaturels. Concupiscence qui est un effet de la perte du don d'intégrité, donc une attirance déréglée pour les plaisirs des sens. Les passions ne sont plus aujourd'hui soumises à la raison comme auparavant. Il y a un dérèglement de nos passions qui ont tendance à prendre le dessus. Et puis enfin, perte du don de science par l'ignorance. Donc cette ignorance que nous avons des choses de Dieu. Cette facilité que nous avons à oublier le monde spirituel. Alors que naturellement, l'homme étant un esprit incarné, il a en commun avec l'ange d'avoir un esprit et il a en commun avec l'animal d'avoir un corps. La partie supérieure, c'est la partie qui est commune à l'ange. Et donc cette partie-là devrait toujours être première, et malheureusement, en raison de la blessure d'ignorance, il y a un attachement déréglé pour tout ce qui est sensible au détriment de la partie spirituelle de l'âme. De science, donc. D'ailleurs, ce don de science n'aurait pas été transmis aux descendants d'Adam et Ève, parce qu'il fallait bien qu'avant que les enfants s'occupent, donc ils seraient allés à l'école, mais sans difficulté. Et là, quand vous vous rendez compte qu'on a perdu, hélas, ce don de science. Et on peut noter que le péché est essentiellement dans la volonté. Volonté délibérée de se détacher de Dieu, ou plutôt de s'attacher à une créature, en sachant qu'en s'attachant à la créature, on se détachera de Dieu. Donc bien sûr que le désir n'est pas de se détacher de Dieu, le désir c'est de s'attacher d'une façon déréglée à la créature. Mais la conséquence nécessaire, c'est le détachement de Dieu. Et donc le péché étant dans la volonté, c'est la volonté qui aujourd'hui est la faculté la plus touchée depuis le péché originel. Et c'est la raison pour laquelle il est plus facile de voir la vérité que de la mettre en pratique. C'est plus facile de découvrir, d'apprendre, de satisfaire son intelligence en apprenant ce qui est vrai, qu'ensuite, dans la vie de tous les jours, d'essayer d'être fidèle à ces principes que nous découvrons. Donc là, on a vu les pertes, la nature du péché originel en Adam et Ève, et puis les effets du péché originel en Adam et Ève. Alors maintenant, on va voir les blessures qui sont contractées à ses descendants. Donc la nature du péché originel en nous. Donc on parle de la tâche du péché originel. Donc on n'a pas à s'accuser, comme l'a fait un petit enfant, d'avoir commis le péché originel. c'est pas le cas. Mais le péché originel en nous... malgré tout, bon, ça reste un mystère, hein, raison de faute en raison de la tâche qui nous unit à nos premiers parents. Non pas de faute personnelle, mais de faute en tant que ce péché se rattache à la volonté de nos premiers parents. Donc c'est là que se situe le mystère, donc je ne fais que le situer. Sinon, si on arrivait à le résoudre, ce serait plus un mystère. Et le péché originel n'a pas uniquement raison de peine en nous, mais aussi raison de faute en raison du lien donc, qui nous unit à nos premiers parents. De ce lien qui fait que Adam a commis ce péché en tant que représentant toute l'humanité au moment de son péché. Et alors, la nature du péché originel en nous, ce n'est pas une simple privation de bien. Là, je vous ai parlé de perte, perte de la grâce, perte des biens préternaturels, perte de la justice originelle. Donc, c'est de perte. Mais il s'agit de l'acquisition d'un habitus mauvais, donc l'acquisition d'une tendance mauvaise. Donc, il y a une inclination positive vers le mal depuis le péché originel, et cela en tout homme, qui s'est plus ou moins prononcé en fonction des, bon, des âmes, mais il y a cette attirance. Donc là, nous faisons abstraction de la grâce, parce qu'après on verra que la grâce guérit en partie justement cette attirance. Et c'est tout le but des sacrements et de la prière que d'arriver à canaliser et à diminuer cette attirance vers le mal. Mais on parle ici de l'état du vieil homme, indépendamment de la grâce. Et c'est vrai qu'on constate qu'en soi, c'est plus facile de se laisser aller à ces mauvaises tendances que de les réfréner. Et en nous, comme en Adam, puisque les péchés en Adam, c'était la volonté qui était la plus touchée, eh bien, en nous, c'est la volonté qui est donc la blessure, qui est la faculté qui est la plus touchée par le péché originel. Et puis ensuite, il y a l'appétit concupiscible, donc cette concupiscence, ce dérèglement de la partie inférieure qui se retrouve en nous. Et puis ensuite, alors, on voit que dans les effets du péché originel en nous, que toutes nos facultés sont atteintes. Donc on va le développer un tout petit peu, mais là c'est important d'avoir ça bien clair dans son esprit. Donc l'intelligence va être touchée par la blessure d'ignorance, donc chaque faculté va avoir sa blessure propre, ce qui est affecté, donc qui est voulu ou pas voulu, mais ça n'a pas d'importance pour l'instant. Donc l'intelligence est touchée par l'ignorance. La volonté va être touchée par la blessure de malice. Donc malice ici, je vous indique ce que dit saint Thomas. La malice, ce n'est pas le fait d'être malicieux. La malice, c'est cette propension vers le mal, cette attirance vers le mal dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis ensuite, dans nos appétits, on distingue deux types d'appétits. Il y a les appétits, c'est l'attirance vers les biens sensibles. C'est ce qu'on appelle l'appétit concupiscible, qui lui sera touché par la concupiscence. Et puis ensuite, il y a un appétit qui est en nous, qui est l'appétit de combat. C'est-à-dire que l'homme rencontre des obstacles, comme l'animal d'ailleurs, même le chien qui se met en colère. Donc l'homme rencontre des obstacles dans l'acquisition de certains biens, et il y a en lui cet appétit irascible qui lui permet de faire face aux obstacles qu'il rencontre et de surmonter ces obstacles. Et là, c'est ce qu'on appelle l'appétit irascible, donc. Et dans cet appétit, il va y avoir la blessure de faiblesse. Donc au lieu que l'homme ait le courage d'affronter les obstacles lorsque les difficultés se présentent, il a tendance à baisser les bras, à se décourager face aux difficultés. Donc on peut réduire, vous voyez, toutes les blessures du péché originel, essentiellement dans toutes ces facultés qui sont touchées. Alors après, on peut développer malheureusement à l'infini, mais essentiellement, ce sont ces quatre blessures qui nous touchent tous depuis le péché. Et on va voir après, dans la partie des vertus, comment les vertus cardinales vont remédier en partie au moins, à ces déficiences. Donc l'ignorance va être remédiée par la vertu de prudence, la malice par la vertu de justice, la concupiscence par la vertu de tempérance et la faiblesse par la vertu de force. Donc les quatre vertus cardinales viendront corriger ces défauts qui sont en nous depuis le péché originel. Donc tout d'abord, l'intelligence donc est touchée par la blessure d'ignorance. L'ignorance se passe à deux niveaux. Il y a l'ignorance dans la lumière de la foi et l'ignorance dans la lumière de la raison. Monseigneur Lefebvre aimait beaucoup distinguer la foi et l'esprit de foi. Donc le fait d'avoir la foi, c'est de croire objectivement que Dieu existe. Et le fait ensuite d'avoir l'esprit de foi, alors c'est cette lumière intérieure qui fait qu'on vit habituellement selon les principes de la foi. Nous, on le constate bien, par exemple, quand on prépare les enfants à la première communion. On voit de très grandes différences entre les familles qui nous présentent leurs enfants. Il y a les enfants qui apprennent, même à 6 ans, hein, on voit déjà la différence. Bon, ça dépend aussi des enfants, je reconnais, mais ça dépend aussi en grande partie des parents. Il y a des enfants dont on voit en les interrogeant qu'ils vivent habituellement dans une atmosphère d'esprit de foi. C'est, alors qu'ils n'ont que 6 ans, c'est très net. Il y en a d'autres où malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc encore une fois, je ne généralise pas trop parce que je reconnais que ça dépend des enfants. On peut avoir de très bons parents et être de très bons parents et avoir des enfants qui sont... Il y a des enfants qui sont pieux naturellement, d'autres qui ne le sont pas. Mais malgré tout... Il y a quand même des indices qui nous font montrer la différence entre les enfants, même tout petits. Et Saint Benoît, dans sa règle, Monseigneur en parlait à midi, dans les 12 degrés d'humilité, pour combattre l'ignorance, eh bien, il conseille d'éviter justement l'oubli. Et il dit que c'est l'oubli de Dieu qui est la cause principale de nos dérèglements. Si on vivait d'une façon habituelle en présence de Dieu, eh bien, certainement qu'on s'écarterait moins souvent du droit chemin. Déjà, vous imaginez que quand vous êtes chez vous, bon, s'il y a un prêtre qui est là, vous dites, bon, essayez de faire attention. Alors imaginez que notre Seigneur est là, et de fait, il est là, Dieu est partout. Donc essayez de vivre en présence, dans cette présence de Dieu, c'est un moyen d'éviter de s'écarter du droit chemin. Voilà donc ce que dit Saint Benoît. Il faut donc, comme l'enseigne Saint Benoît, fuir absolument l'oubli, lequel est la cause première de tous nos dérèglements. Nous oublions que nous sommes des créatures, éphémère, impuissante, totalement dépendante. Nous oublions le Créateur auquel nous devons tout. Nous ne pensons ni à le louer, ni à le remercier, ni à le mieux connaître, ni à l'aimer vraiment. Alors que cependant, nous sommes essentiellement ordonnés à lui et que nous ne pouvons trouver notre repos qu'en lui. Nous oublions les exigences de sa justice et de son amour, les terribles châtiments qui attendent les pécheurs à leur sortie du monde, les récompenses inimaginables au contraire qu'il réserve à ses serviteurs dans sa cité à lui. Nous oublions que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière, que notre vie est courte, fragile, que la trame peut en être coupée à tout instant. Rien n'est plus certain que la mort, rien n'est plus incertain que son heure. Nous oublions que Dieu voit partout, que nous ne sommes jamais hors de sa présence ni de celle de ses anges. Et nous agissons cependant bien souvent comme si nous étions seuls, sans aucun témoin. Nous oublions que le démon rôde sans cesse autour de nous, cherchant qui dévorer, et ne cesse de nous tendre des pièges. Nous oublions enfin tous nos péchés, nos erreurs, nos désordres personnels, et nous osons juger la conduite de notre prochain avec une sévérité implacable. Il importe de dissiper cet épais nuage de ténèbres que la négligence entretient autour de notre cœur et qui nous cache la lumière, de nous remettre sur le plan de la vérité, de considérer la réalité telle qu'elle est. Alors seulement l'action du Saint-Esprit commencera à avoir prise sur nous, et nous pourrons dire avec le psalmiste, « J'écouterai ce que dit en moi le Seigneur Dieu. » Vous trouvez ça dans les 12 degrés d'humilité, la page 54 et 55. Et donc le remède à cet oubli de Dieu, c'est de vivre en présence de Dieu. Et je crois que c'est un peu le but d'une retraite, vous voyez, croiser le regard de notre Seigneur et essayer de vivre ensuite en sa présence. En sachant qu'il y a ici une distinction à faire entre présence habituelle et présence actuelle. La présence dont je parle, c'est une présence habituelle. La présence actuelle de Dieu est impossible, parce que nous ne sommes pas des anges, ni des saints. Sinon, en voiture, premier carrefour, et puis il y aura un accident. Donc, la présence habituelle, c'est le fait de vivre, je dirais, dans une atmosphère chrétienne, d'ordonner habituellement sa vie vers Dieu et d'apprendre à poser des actes en fonction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de ce que je vais faire là? Donc c'est cela, le fait de vivre en présence de Dieu. Mais une présence actuelle exigerait une tension intérieure qui n'est pas possible pour ce monde et qui ce n'est pas ce que le bon Dieu veut. Ce qu'il faut, c'est même dans la prière, vous voyez, dans la prière, normalement, il faudrait avoir là une attention actuelle de Dieu, mais même dans la prière, l'attention actuelle de Dieu n'est pas toujours possible. Ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est imiter cette religieuse, qui avait une réputation d'être une sainte religieuse, certains d'entre vous connaissent l'histoire, qui avait cette réputation d'être une religieuse toujours très, très fidèle. Et le jour de la retraite, sa retraite annuelle, le prêtre qui la reçoit lui demande comment elle se mettait en prière, ce qu'elle faisait quand elle se mettait en prière. Elle répond, elle dit, moi c'est simple. Chaque fois que je me mets en oraison, je dis au bon Dieu, je m'en fous. Elle dit, bon. Et à part ça, qu'est-ce que vous dites à Dieu encore? Je dis encore, je m'en fous. Et ensuite, je m'en fous. Alors, bon. Et alors, dites, oui, parce que je suis ici responsable de la lingerie. Et donc, chaque fois que je me mets en oraison, je vois tout le tas de linge qui me reste encore à m'occuper. Alors, je dis, je m'en fous. Donc, elle passait son temps à essayer de chasser les distractions pour essayer de se mettre en présence de Dieu. Donc, vous voyez, c'est un petit conseil pratique pour vous mettre dans l'esprit de la retraite. Donc, suivez les conseils de cette religieuse. Donc, vivre en présence de Dieu, donc distinguez bien la présence habituelle de la présence actuelle. La présence actuelle est impossible. Mais cette présence, malgré tout, il faut tendre vers, au moins dans la prière. Et voici les conséquences de cette vie en présence de Dieu. Donc là, je cite toujours Don de Mauléon, dans les 12 degrés d'humilité. Là, c'est le chapitre 9, pages 83 et 84. Comment, en effet, oserions-nous commettre le mal sous ses yeux, sous les yeux de Dieu, alors qu'une expérience facile à faire nous apprend que bien souvent, la seule présence d'un homme, d'un être par conséquent pécheur et faible comme nous, suffit à nous maintenir dans le devoir. Les païens eux-mêmes s'étaient déjà aperçus de ce fait. Mon ami, écrit Sénèque dans une de ses lettres à Lucilius, recevez maintenant un conseil utile et salutaire que je veux graver dans votre esprit. C'est qu'il nous faut choisir quelque homme de bien et l'avoir sans cesse devant les yeux, de telle façon que nous fassions tout comme en sa présence. Ce précepte, mon cher Lucilius, vient d'Épicure. C'est lui qui nous a donné ainsi un gardien, un pédagogue, et cela avec beaucoup de raisons. La plus grande partie des fautes serait évitée si ceux qui vont les commettre se sentaient vus d'un témoin. Que l'esprit est donc quelqu'un qu'il révère, et par le souvenir duquel il sanctifie ses plus secrètes pensées. Heureux l'homme qui sait en respecter un autre, au point de rentrer en lui-même et de se remettre dans l'ordre à son seul souvenir. Celui qui est capable d'un tel respect sera bientôt lui-même respectable. Prenez Caton pour modèle. S'il vous paraît trop rigide, choisissez un sage d'une vertu moins austère, par exemple Lélius ou tel autre. Et ayez-le toujours présent comme un gardien ou comme modèle. Donc vous voyez comment est-ce que des païens même recommandaient de vivre près d'une personne sage pour éviter en esprit, pour éviter certains désordres. Ensuite, donc nous parlons toujours de la blessure d'ignorance. Le remède à l'ignorance, eh bien on touche ici après, comme on est dans l'intelligence, l'imprudence. Si la vertu de l'intelligence est la vertu de prudence, il y a donc le défaut, malheureusement, de prudence, qui est l'imprudence. Qui sait ensuite juger, porter un jugement. Une fois qu'il a tous les éléments du conseil, il porte un jugement. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et ensuite, l'homme prudent, c'est celui qui passe aux actes. Ce n'est pas le raisonneur qui est toujours en train de refaire le monde dans son esprit, c'est celui qui sait agir en conséquence. Et l'homme prudent, c'est celui qui précisément donc sait passer aux actes. Donc dans la vertu de prudence, il y a ces trois aspects de conseil, de jugement et de décision, enfin, d'application de la décision. Et le plus important, c'est l'intimation, donc c'est le commandement, donc c'est le fait de passer à l'acte. Et là aussi, en raison de la blessure d'ignorance, eh bien, nous avons parfois des jugements précipités, donc on juge sans avoir tous les éléments, on oublie de prendre conseil en pensant qu'on a la science infuse, ou alors ensuite on tarde trop dans les décisions à prendre, ou alors on les prend sans avoir eu tous les éléments. Donc ça c'était la blessure qui touche l'intelligence. Ensuite, la blessure qui touche la volonté, donc la blessure de malice. Donc notre volonté est faite pour aimer Dieu et le prochain. L'amour est extatique par définition. L'amour se porte vers l'être aimé. Et l'obstacle à l'amour, à la charité, c'est l'amour déréglé de soi-même. C'est une recherche exagérée de soi. Donc c'est l'égoïsme. Et le fait d'avoir cet amour déréglé de nous-mêmes, donc c'est une conséquence maintenant de cet amour déréglé de nous-mêmes, c'est la désobéissance. Si on a du mal à obéir, c'est parce que on a un amour déréglé de nous-mêmes. L'homme qui est humble, l'homme se met à sa place. Se mettant à sa place, eh bien, il est capable d'aimer comme il doit aimer. Et c'est la raison pour laquelle c'est en parlant de la malice que saint Thomas parle de la désobéissance. Donc ça c'est très important donc, de comprendre, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est la volonté qui est la faculté la plus touchée depuis le péché originel, et donc c'est l'amour déréglé de nous-mêmes qui sera l'effet le plus négatif en nous depuis le péché originel. Et cet amour déréglé de nous-mêmes nous conduit en particulier à la désobéissance. Et surtout aujourd'hui, parce que la crise de l'Église et de la société est une crise d'autorité, on voit bien. Et cette crise d'autorité se manifeste par un esprit rationaliste, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à passer au crible de notre raison, tout ce que le supérieur dit en disant ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. Et ceci est en partie, je dirais, juste si l'autorité est infidèle. Parce que c'est là que ce sont justement les limites de l'obéissance, que nous comprenons là pour le coup très bien. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Mais à force d'insister sur les limites de la vertu de l'obéissance et le fait qu'on est dans une crise de l'Église, et donc lorsque la foi et les mœurs sont en jeu, en ce moment-là, l'obéissance n'est pas une vertu première, on doit sauvegarder la foi et on doit sauvegarder la morale, on garde cet état d'esprit, surtout les Français, parce que le Français est très critique. Mais là encore, cet esprit critique donc, a eu ce beau côté qui nous a permis de résister. C'est ce qui fait qu'en France, vous voyez, il y a beaucoup de tradis. Mais alors la difficulté maintenant, c'est que vous mettez tous ces gens qui ont cet esprit critique ensemble, dans la même chapelle. Alors bon courage pour les prêtres. Moi je suis dans un séminaire, ça va. Mais non, parce que les jeunes gens qui viennent ici aussi ont été élevés dans le monde. Alors c'est la même chose, donc on essaie de leur apprendre. Ils sont dociles, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir conscience de ce défaut, de ce défaut-là. On voit bien la fraternité, par exemple, on a beaucoup de frères dans la fraternité en Allemagne, on a beaucoup moins en France. Le propre du frère, c'est l'obéissance. Les Allemands, on suit comme un seul homme. En France, bon, c'est moins facile. C'est comme ça. Bon, je caricature un peu, peut-être, mais... Alors le remède à cette blessure qui nous touche, eh bien, c'est apprendre à immoler sa volonté propre par le renoncement, l'oubli de soi. C'est ce qui nous permettra de nous remettre à notre place à nouveau. Et puis ensuite, alors, la blessure de faiblesse qui va toucher notre appétit irascible. Là, quand on étudie la vertu de force, on s'aperçoit qu'il y a deux aspects dans la vertu de force. La vertu de force consiste d'abord à entreprendre, à aller à l'attaque, à partir à l'assaut. C'est l'aspect donc du combat premier, de l'élan pour partir à l'attaque. Et puis ensuite, alors il faut tenir, c'est la persévérance. Et l'expérience montre qu'il est plus facile d'entreprendre que de persévérer. Mais notre Seigneur nous a dit, celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Donc il faut la persévérance, qui est une grâce à demander. C'est la grâce des grâces. Donc il est plus facile de lancer une œuvre que de la poursuivre longtemps. Ouvrez un institut, ouvrez un camp pour jeunes, je ne sais pas quoi, donc c'est relativement facile. Mais ensuite, au bout de la 10e année, on voit qu'il reste fidèle. C'est comme ça. Parce que l'homme est attiré par le nouveau, donc dès que c'est un peu nouveau, et puis on ne se rend pas compte non plus toujours des difficultés qu'on va avoir. Donc. Donc la difficulté que l'on a, ce n'est pas de se donner une fois, c'est de ne pas se reprendre. Donc c'est de fait d'être toujours fidèle, de rester fidèle à ses engagements. Donc ça c'est important, on l'a perdu aujourd'hui. Vous voyez, autrefois il y avait cette fidélité à la parole donnée. Lorsqu'on prenait un engagement, on se dit, bon, j'ai pris mon engagement, j'assume cet engagement. Aujourd'hui on a perdu le sens des responsabilités, on prend l'engagement, après on dit, ah si j'en ai su, j'en ai pas venu. Et puis donc on abandonne tout. Eh bien non, on assume. Donc c'est pour ça qu'avant de prendre l'engagement, il faut réfléchir, il faut prendre conseil. Et si c'est sage, on s'engage, mais ensuite, on tient. Avec l'aide de Dieu, parce que sans lui, on ne pourra pas. Et donc ça montre aussi que, bah oui, ne pas vouloir devenir un saint du jour au lendemain. Donc il faut, la sainteté, c'est une longue patience, disait sainte Thérèse. Donc il faut beaucoup de temps, beaucoup d'épreuves. Aussi, c'est de porter sa croix au jour le jour. Parce que souvent, vous voyez, il y a des gens qui portent la croix des 20 ans passés et des 30 ans futurs. Alors, bien sûr qu'elle est un peu lourde. Quoi. Ça fait 20 ans que ça dure, j'arriverai jamais à tenir encore 10 ans de plus ou 30 ans de plus. Attendez, vous arrivez bien à tenir au moins jusqu'à ce soir. Bon, demain, vous aurez la grâce pour demain. Donc ne portez pas la croix qui passait, elle est passée, ça va. Puis celle de demain, vous ne l'avez pas encore. Donc. Et là, le remède, je pense, pour arriver à surmonter la faiblesse, eh bien, c'est justement croire en la puissance de la grâce. Réaliser qu'on est à deux à porter la croix, et que celui qui la porte le plus, c'est plus notre Seigneur que nous-mêmes. Et puis aussi, c'est très consolant d'ailleurs de le penser, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Lorsque le bon Dieu touche une âme, eh bien, si l'âme est fidèle, elle arrivera au bout. C'est pas le bon Dieu qui nous abandonnera le premier. Donc l'attirance déréglée pour les plaisirs des sens. Concupiscence qui est telle que saint Jean allait jusqu'à dire « Tout ce qui est dans le monde est concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et orgueil de la vie. » Donc Dieu a mis un certain plaisir dans l'accomplissement des actes qui ont trait soit au maintien de la vie, soit à la propagation de la vie. Le but du plaisir, c'est de faciliter l'acte. Si on n'a pas de goût à manger, on risquerait d'oublier de manger, si on tomberait malade. Donc le bon Dieu a fait en sorte de mettre ce plaisir pour une finalité propre, à savoir se maintenir en santé pour la nourriture. Donc le fait d'accepter le plaisir lorsque le plaisir est lié à sa finalité, c'est tout à fait légitime. Mais rechercher le plaisir pour lui-même en coupant l'acte de sa faim, c'est un désordre. Et le désordre est d'autant plus grand que la finalité de cet acte est plus noble. De communiquer la vie, ses péchés contre la chair, ses péchés de chair, sont les péchés les plus graves après l'homicide, nous explique saint Thomas d'Aquin. Parce que l'homicide consiste à tuer un être vivant, et dans l'autre cas, il s'agit soit de tuer un être vivant, malheureusement aussi, ou sinon l'empêcher de venir au monde. D'ailleurs, l'analogie avec la nourriture est, à mon avis, c'est ce qui aide le plus à comprendre. Et je le dis non seulement pour vous, mais c'est aussi parce que ces sujets-là, bien souvent, quand on en parle avec des gens du monde, enfin, on a l'impression qu'on est sur une autre planète. Mais je pense que c'est important de connaître l'ordre des choses. Du temps des Romains, certains en mettaient plein la panse, ensuite ils allaient au vomitorium pour pouvoir refaire bombance. À mon avis, c'est un désordre, vous voyez. Parce qu'il recherchait uniquement le plaisir pour lui-même. Eh bien, ce qui est vrai dans ces actes qui ont trait au maintien de la vie, se retrouve dans les actes de la propagation de la vie. Et donc le fait de couper l'acte de sa fin, c'est un désordre qui est... du point de vue purement naturel, on fait même pas appel, c'est pas les catholiques qui disent que, ou le pape qui dit que, ou Mgr Lefebvre qui dit que, c'est la nature qui dit que. Et chaque fois qu'on va contre la nature se venge un jour ou l'autre. Donc, Dieu ne nous demande pas des commandements qui sont contre la nature des choses. Dieu nous demande de respecter notre nature. Et le fait de croire qu'on sera plus heureux en allant contre la nature, c'est faux. Le péché est contre Dieu, mais le péché est contre la nature des choses, et donc le péché est contre nous, il est contre l'homme. Donc là aussi, il faut avoir conscience de cette attirance déréglée que nous avons, qui est une conséquence du péché originel, et donc savoir pratiquer la vertu opposée à ce défaut, à savoir la vertu de tempérance. Et toujours dans cette partie de la concupiscence, saint Thomas parle dans cette partie-là aussi de la colère. On aurait pu penser qu'il en aurait parlé dans l'appétit irascible. Il en parle ici. Pourquoi il en parle ici? C'est que la concupiscence on pourrait dire la vertu de tempérance consiste à modérer les actes de concupiscence. Et la colère consiste aussi à modérer l'appétit d'agressivité que nous avons. Donc c'est en tant qu'il s'agit ici de modérer un appétit que saint Thomas rattache la colère à la concupiscence. Donc ici ce que je dirais, c'est qu'il est humain de se disputer, c'est l'expérience qui le montre, mais il ne faut pas se coucher sur sa colère. Donc ça, c'est important, de ne pas laisser la rancune entrer dans notre cœur. Et dans Notre Père, c'est une prière qui est courte, la prière par excellence que notre Seigneur nous a appris, mais notre Seigneur nous a dit tout ce qu'il y avait à dire, et en particulier, connaissant la nature humaine, eh bien, il nous a demandé de dire tous les jours cette prière du Notre Père qui contient ces paroles: « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc, pardonnez-moi comme je pardonne aux autres. Jugez-moi selon la manière dont je juge les autres. On demande à Dieu d'avoir vis-à-vis de nous l'attitude que nous avons vis-à-vis de notre prochain. Et pour cela, il faut éviter que le mal prenne racine. Parce que bien sûr, c'est plus difficile d'arracher la rancune dans notre cœur après 10 ans, 20 ans ou 30 ans que de le faire sur le champ. Et donc ici, il faut demander au bon Dieu la vertu de douceur pour arriver à modérer l'ardeur de son tempérament. Et puis enfin, toujours dans cette modération nécessaire, saint Thomas parle, après la colère, il parle aussi de la curiosité, qui est aussi un appétit déréglé, donc il faut modérer. Donc une certaine curiosité est bonne, le désir d'apprendre est bon, parce que si on n'est pas ce désir... Déjà que ce n'est pas facile d'apprendre, sans le désir ce serait encore plus difficile. Mais c'est un désir qui doit être réglé. Et donc, une grande règle toujours, ne jamais nous occuper de ceux qui ne nous regardent pas. J'ai reçu beaucoup de coups de téléphone concernant, malheureusement, donc, ce qui s'est passé avec les enfants. Alors, monsieur l'abbé, vous pouvez expliquer quelle est la différence qu'il y a entre ce que les médias ont pu dire et ce qui s'est passé? Je dis, attendez, moi je ne suis pas bon Dieu. Et puis en plus, j'ai aucun rapport, je ne suis pas prieur, donc je n'ai pas de rapport directement avec vous. Donc renseignez-vous auprès des personnes qui pourraient être compétentes. Mais n'importe comment, je pense qu'il est un peu tôt pour se prononcer, pour être capable de faire la part des choses entre ce qui a été dit et ce qui s'est passé. Donc là, c'est toujours une grande règle. Alors chacun, après, se met à avoir sa petite opinion à soi, et puis alors on part en guerre, et puis ceci, et puis cela. Ouh. Donc, laissons les choses se passer, et après, avec le temps, on verra. Prions, bon, essayons d'avoir des éléments qu'on peut avoir, si ça peut être nécessaire pour pacifier notre âme. Mais souvent, si on a besoin de pacifier notre âme, c'est parce que on l'a mis dans tous ces états, parce que par manque de maîtrise, justement. Donc, comme je le rappelais à mes anciens fidèles, ils se souviendront de cette histoire des pères du désert, où quelqu'un va trouver un père du désert et puis il lui dit « Je sais comment on peut pêcher avec les yeux, je sais comment on peut pêcher avec les oreilles, mais comment peut-on pêcher avec le nez ?» En les mettant dans les affaires des autres, répondit l'ancien. Donc, vous voyez, ne pas épier les gestes de ceux qui vous entourent. Et remarquez que, par exemple, même au cours d'une retraite, ça se produit. Parce qu'on n'a pas grand-chose à faire dans une retraite, sinon, et qu'écouter le prédicateur, et puis, bon. Alors, du coup, ben, on regarde les autres, car, oh là, celle-là, alors, elle a un bon appétit. Hein. C'est comme ça. Ou alors, celle-ci, tiens, comment elle marche. Enfin, donc, on voit les gens qui nous entourent, c'est comme ça. Donc, apprendre à modérer ses jugements, et ne pas les interpréter avec malveillance. Donc le but de cette instruction, vous voyez, c'est d'apprendre à regarder objectivement les choses en réalisant que nous ne sommes pas parfaits, nous avons en nous de mauvaises tendances, des mauvaises tendances qu'hélas nous devrons conserver en partie au moins toute notre vie, des mauvaises tendances que nous pourrons aussi en partie réfréner par le combat spirituel, par les armes que le bon Dieu a mis à notre disposition. Mais c'est déjà bien d'avoir toujours bien en tête ces blessures qui touchent toute l'humanité. Et donc savoir qu'on n'est pas les seuls, hélas, à ressentir ce combat entre le vieil homme et l'homme nouveau. Et le but de cette instruction, c'est ensuite, en prenant conscience de notre état de pécheur, de mendier la miséricorde de Dieu. Plus nous avons conscience de notre état de pécheur, plus nous devons nous jeter dans les bras de Dieu, dans les bras de la miséricorde de Dieu. Donc ce sentiment de la misère détachée de la miséricorde de Dieu est mauvais. Ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Ce sentiment de la misère doit nous pousser, au contraire, à nous rapprocher de Dieu. Parce que Dieu est essentiellement miséricorde. L'attribut le plus divin, c'est la miséricorde. La toute-puissance de Dieu s'exerce dans la miséricorde, dans le fait de relever les âmes pour les rapprocher de lui. Et donc, on doit avoir cette componction, cette réserve liée à cette connaissance de nos faiblesses, et puis en même temps l'action de grâce à la vue de la miséricorde de Dieu. C'est là, je crois, ce qu'il faut avoir en début de retraite, et puis en même temps, essayer de faire peut-être un examen de conscience pour voir au cours de l'année écoulée ce qui aurait pu déplaire à Dieu et essayer de le regretter pour repartir après avec confiance. Voilà.